actuelle? Tu veux découvrir de nouveaux artistes? Une excellente façon d'y arriver est de plonger dans l'univers d'un nouvel album récemment ajouté sur nos ondes. Chiz te recommande avec son émission Plein son sûr d'écouter un album en entier. Plein son sûr tous les vendredis de 10h à 11h à Chiz 94.3.
De la réveille à Saint-Charles, boisé sur le slalom, mes zigzag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Envie d'en apprendre plus sur l'encadrement et sur différents enjeux des cycles supérieurs de l'Université Laval? Tu meurs d'envie de connaître ce qui se passe à l'Allier et dans les associations universitaires des cycles supérieurs? Ça tombe bien, l'Allier et Chiz 94.3 ont une émission juste pour toi. Les mardis de 11h30 à midi, écoute Question de savoir pour en apprendre un peu plus sur les enjeux des cycles supérieurs. Disponible aussi sur le chiz.ca et en balado diffusion.
Voyons, comment ça, ça marche pas? Hey Sophie, essaye donc de chasamer la toune qui joue à radio.
Ça dit que c'est... Cain!
Cain? Hey boy, on est loin d'embarque ma belle.
Ouais!
Quand vous vous demandez
« C'est quoi cette toune-là? »
Ne faites pas comme Adrien et Sophie. Allez plutôt sur chiz.ca et cliquez sur l'onglet « Musique diffusée ». Bonne écoute!
Il est 4 heures.
Vendredi, tout le monde, on est le 22 octobre. Mon nom est Félix Duchesne et vous écoutez Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Aujourd'hui, grosse émission, je vais commencer avec le retour à l'Est de vos empires avec Amélie Nadeau. On va vous parler de ce qui est beau ou ce qui devrait être beau. Bref, on vous en parle tout de suite après l'intro. On va parler aussi avec David Marchand de Zouz, eux qui ont fait leur lancement hier au Pantoum et ils ont un autre spectacle ce soir. Ils vont me parler évidemment de leur album qui est sorti le 15 qui s'appelle Vertige. Je vais parler aussi avec un projet qui s'appelle Projet Jacob. C'est un auteur-compositeur de Trois-Rivières. Il va venir me parler à 16h30. Il y a Camille Bernatchez qui va faire sa chronique Passeport culturel à 16h45 et Alex Tremblay-Lamarche avec sa chronique Histoire de lire. Ça va terminer l'émission à 17h et puis ben, on va se dire à la semaine prochaine et même à dans deux semaines parce que il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine, mais ne vous inquiétez pas, on va être de retour pour le mois de novembre. On se quitte pour une chanson sur l'album Sablier de Miro. On y va avec la dernière chanson, un featuring avec Georgette, ça s'appelle Noyade.
Ça fait longtemps qu'on s'est vu comme un vent tombé dans l'oubli. Blame it on me. Un long vol, la tête qui tourne encore. On s'est étourdi, mais on s'est tout dit. Les paris sont ouverts, mais son visage est fermé. J'suis parti comme un éclair au milieu de la voie ferrée. En croisant nos univers, j'avais la voix serrée. Maintenant j'y vois plus clair, mais je me sens cerné. J'ai passé toute la journée au bord de la noyade à vouloir me camoufler. Le cœur au fond de la main,
older. We'll wonder
if it was fake, or was it all fake?
On s'est mis à découvert, mais les frontières sont fermées. On a tout laissé derrière, au milieu de la voie ferrée. Pour traverser nos hivers, on est resté enfermés. Le temps que tout s'éclaire, si tu te sens concerné. J'ai passé toute la journée au bord de la noyade, à vouloir me camoufler, le cœur au fond de la mare, peu capable de m'avouer, vaincu par la vague. Yeah, I'm out of my mind and I want you to stay.
Voilà, c'était Noyade, la dernière chanson sur l'album de Miro qui s'appelle Sablier. C'est sorti aujourd'hui. C'était un featuring avec Georgette. Trêve de bavarderie, si on va dire ça comme ça. Je suis avec Amélie Nadeau en studio. Salut Amélie, comment ça va?
Salut Félix, ça va bien toi?
J'ai oublié le micro, mais salut, ça va?
Oui, ça va bien Félix, toi?
Oui, ben, comme je t'ai dit, il y a plein de choses aujourd'hui que j'ai à faire, puis on dirait que rien rentre dans l'ordre, mais on va commencer cette émission du bon pied. On se parle parce que c'est un retour d'une collaboration entre deux entités, Shiz et À l'Est de vos empires. C'est une chronique qui avait l'habitude d'être là, et puis c'est un grand retour, comme je l'ai dit. J'ai le goût d'en apprendre plus sur toi, sur ton implication avec À l'Est de vos empires. On parlera évidemment de ton sujet. Tu vas nous parler de la beauté, de la beauté dans l'art. Et ben, entre autres, tu vas nous parler du Museum of Bad Art, le MOBA. On peut commencer par te présenter.
Ben moi, en fait, j'ai complété mon baccalauréat en histoire de l'art. Puis en ce moment, je poursuis mes études à l'Université Laval en muséologie. Mm-hmm. Puis en fait, l'intérêt là, des chroniques avec Alice ici, c'est de présenter des événements actuels en histoire de l'art qui nous permettent en même temps de parler de des questionnements d'histoire de l'art qui sont encore actuels aujourd'hui.
Ouais.
Donc, tout en permettant, en fait, de concrétiser ça avec les expositions qui sont présentées à Québec.
Ben, c'est ça, c'est de suivre l'actualité aussi puis de parler de sujets, comme je le dis, intemporels. Ça fait combien de temps que tu es avec À l'Est de vos empires?
Ça fait pas super longtemps, là, en fait. Okay. Là, j'ai joint l'équipe dans ma dernière année de bac. En fait, je me suis fait intégrer par un de mes amis là, qui était le coordonnateur des chroniqueurs. Puis, ouais. En fait, c'était vraiment dans le but, justement, un peu plus de m'intégrer à la communauté des artistes puis des personnes qui s'intéressent aux arts à Québec. Donc, mm-hmm. C'est vraiment stimulant, c'est super le fun.
Bien, de la façon que tu en parles, ça a l'air super le fun aussi. Est-ce que tu es de Québec?
Non, je viens de Lac-Etchemin. Okay. C'est dans le coin de la Bellechasse.
Oui, tout à fait. Justement, tu dis que tu veux entrer dans ce milieu artistique, de faire des contacts et tout. Donc, À l'Est de vos empires, évidemment, c'est une bonne façon. C'est sûrement une chronique, je l'espère, en fait, une chronique qui va être une habitude, qui va être une tradition. On en conviendra pour la suite des choses. Aujourd'hui, première chronique, si vous voulez me parler du MOBA, c'est une exposition qu'on a pu voir, entre autres, au Vieux-Port, si je me trompe pas. On a vu ça, malheureusement, c'est terminé. Mais avant qu'on parle du grand sujet, parce qu'on pourrait faire une émission complète sur la façon de percevoir l'art, qu'est-ce qui est beau finalement.
Ouais.
Mais je te laisse introduire aussi le MOBA.
Oui, ben en fait, le MOBA, c'est un collectif à but non lucratif qui a été fondé à l'automne 1993 à Boston. La mission du MOBA est assez simple, c'est de collectionner, conserver et d'exposer le mauvais art, donc la traduction de bad art, sous toutes ses formes et dans toute sa gloire. Donc, en fait, c'est super intéressant, c'est un concept qui est vraiment unique en son genre. Les fondateurs ont commencé à ramasser des œuvres dans des brocantes, dans des vides-greniers, dans des ventes de garage, puis même dans des poubelles. Donc, des œuvres, en fait, qu'on comprend que l'artiste, oui, on peut dire l'artiste, avait une intention assez sérieuse, mais le rendu, malheureusement, n'y est définitivement pas. Puis, en fait, c'est ça, c'est... Il y a aussi des dons, là, quand le MOBA, ça a commencé, ça a gagné en popularité vraiment rapidement, puis ça s'est mis à être connu de manière internationale. Donc, il s'est mis à avoir des dons d'à peu près partout sur la planète, là, des gens qui se sont intéressés un peu à trouver ces œuvres-là qui sont vraiment elles-mêmes uniques en leur genre par leur particularité. Donc, elles sont... En fait, les œuvres sont pas particulièrement agréables à regarder niveau beauté, ouais. Mais en fait, ça crée une expérience véritablement quand on visite le MOBA parce que ben c'est toutes des œuvres qui sont vraiment particulières puis qui sont qui nous font bien rire ou qui nous font nous questionner un peu sur nous-mêmes, notre perception de la beauté. Là.
Ben oui, c'est ça. Puis on va pouvoir en parler de ce qui est du bon, de l'art bon ou de l'art mauvais. Mais avant d'enchaîner avec ça, je voulais parler du MOBA à Québec. C'est arrivé comment? Évidemment, ça s'est terminé le 11 octobre. Mais je te laisse parler de ce contexte-là à Québec.
Oui, ben en fait, le MOBA s'est retrouvé à Québec dans le cadre des passages insolites. Donc, les passages insolites là, qui sont organisés à Québec pendant l'été. Puis ça, c'est organisé par Exmuro. Mm-hmm. Donc, en fait, c'était présenté au Quai Saint-André, puis ça se déployait sur deux étages. Donc, on avait à peu près une centaine d'œuvres du MOBA qui avaient été prêtées, qu'on pouvait visiter gratuitement pendant tout l'été. Puis, en fait, c'était intéressant. C'était divisé en thèmes. Donc, on avait le thème de la nudité, le thème du zoo, le thème du portrait. Donc, on retrouvait un petit peu cette disposition-là classique des musées avec des thèmes bien définis, mais dans un contexte moins officiel un peu. Mais c'est ça lui permettait en fait de mettre ces œuvres-là dans un contexte officiel, un peu glorieux, même si elles s'étaient retrouvées données ou jetées aux poubelles.
On va parler du sujet de prédilection de ta chronique d'aujourd'hui. Le MOBA qui fait référence au bad art, donc l'art mauvais. Et on voulait parler de ce qui est beau, de la beauté dans l'art. On pense souvent, mettons, au courant impressionniste où on voit des paysages puis on se dit « waouh, ça, c'est beau, c'est de l'art qui vaut la peine ». Puis des fois, on regarde, on peut penser au cubisme puis se dire « qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment beau? » Selon toi, comment est-ce qu'on définit l'art avant de dire si c'est beau ou pas beau? Pour toi, l'art, comment est-ce que ça se définit? C'est une grande question, mais, ouais. Mais tu sais, essaie de répondre brièvement.
Oui, je comprends. Ben, honnêtement, le plus brièvement que c'est, moi, pour moi, c'est quelque chose qui est produit avec une intention artistique. Moi, pour moi, ça peut englober vraiment beaucoup de choses, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a vraiment ouvert la porte à plusieurs autres matériaux, plusieurs autres intentions derrière l'art. Puis je pense que le MOBA, ça rentre un peu dans ça aussi, où est-ce qu'on se dit, au final, dès qu'il y a une intention de produire quelque chose d'artistique, moi, pour moi, ça peut avoir de la valeur.
Donc, tout est dans l'intention.
Oui, je pense que oui. Ouais.
Okay. Puis après ça, cette intention-là de faire de l'art, après, ce qui est beau, comment est-ce qu'on le détermine? Est-ce que c'est le public qui regarde un œuvre? Est-ce que c'est... Les conservateurs de musées qui se disent « ça, c'est de l'art qui est beau », c'est qui détermine la beauté, finalement?
Bien, c'est sûr que traditionnellement, en fait, c'était vraiment au niveau institutionnel. Là. En fait, dès le début de l'enseignement académique, on avait des codes esthétiques qui permettaient de définir qu'est-ce qui était une œuvre avec de la valeur ou pas. Bien, c'est sûr qu'encore aujourd'hui, tu sais, il y a des institutions qui permettent de définir la valeur monétaire de des œuvres. Mm-hmm. Mais si on pense vraiment au niveau du public, tu sais, qui peut décider qui est beau ou pas, qui est beau, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est beau ou pas. En fait, à ce niveau-là, c'est vraiment, il peut avoir une forme de subjectivité. Parce que vivre une expérience esthétique avec une œuvre, ben oui, ça vient... en fait, il y a des composantes vraiment cognitives qui viennent agir. Donc, le fait, en fait, de voir des œuvres qui sont, par exemple, avec des couleurs, que les contrastes fonctionnent bien, ou tu sais, c'est bien proportionné, c'est bien réparti sur la toile. Donc ça, c'est vraiment cognitif. Mm-hmm. Mais dans l'expérience esthétique, c'est aussi une part de l'émotif, de l'affectif. Donc, par exemple, si on regarde une œuvre puis on y retrouve quelque chose qui rappelle un souvenir agréable ou qui vient en fait rappeler des choses que nous on apprécie, ben ça peut nous faire qu'on va trouver une œuvre belle par ouais. rapport à quelqu'un d'autre qui va pas l'apprécier. Tu sais. Mm-hmm.
Donc ça serait comme tu l'as dit, notre perception, nos émotions, j'ai envie de dire aussi un peu les expériences qu'on a vécues pour mm-hmm. peut-être retrouver ça dans une œuvre. Si on tourne la question de bord, pour le Museum of Bad Art, comment est-ce qu'on a conclu que ça, c'est de la mauvaise art ou de ouais. l'art laid?
Ben en fait, je pense que quand on visite et qu'on regarde les œuvres, on comprend un peu. Il y a vraiment des choses, des fois, comme par exemple...
Faut le voir pour le comprendre.
Ouais. Mais si vous voulez avoir un petit visuel, là, je vous donne rendez-vous sur la page Facebook d'Alès de vos empires. On a mis un exemple, l'œuvre Charlie et Sheba, qui pour moi, ça a été un de mes coups de cœur. C'est comme deux petits chiens, sur une table à pique-nique. Puis il y a comme un malaise visible et qu'on peut ressentir entre les deux petits chiens. Je sais pas ah, comment oui. l'expliquer. Puis t'sais, moi, celle-là, je comprenais, les chiens étaient... pas très bien représenté. La technique était... T'sais, l'application de la peinture était bizarre. Les couleurs étaient assez déstabilisantes. Puis même la forme des chiens. Mais au final, moi, j'ai passé quand même du temps devant cette œuvre-là à me dire... Ah, c'est drôle. On dirait que je ressens quelque chose. Si l'œuvre était parfaitement représentée, probablement que je serais passée à autre chose rapidement. Okay. Fait que, c'est pour ça qu'avec le mot bas, ça nous permet de vivre quelque chose autre que juste d'être dans un état de contemplation devant une œuvre qui est parfaitement réalisée. T'sais.
J'ai envie de conclure en te posant... c'est pas une question piège, mais c'est une question un peu difficile. Pour toi, le je sais pas si c'est carré noir ou carré blanc. Je pense que carré blanc
ouais,
sur fond
Malevitch.
Blanc. Est-ce que ça, c'est de l'art mauvais, de l'art laid? Est-ce qu'on classe ça comme étant beau? Comment est-ce qu'on voit ça?
Ben, au niveau de la beauté, j'avoue que ça peut être un peu compliqué, mais étant donné que j'ai suivi des cours d'histoire de l'art puis que j'ai compris en fait le côté un peu revendicateur puis avant-gardiste derrière cette œuvre-là, puis de se dire bon ben moi j'arrive à l'aboutissement de l'art là. Tu sais, en fait le Malevitch, lui, son idée c'était d'arriver au maximum de ce que l'art peut offrir, puis après ça on arrive on est au bout en fait, il y a plus de couleurs, il y a plus de formes, il y a plus rien. Donc derrière cette idée-là, moi pour moi, je peux pas dire que c'est du mauvais art, mais est-ce que je trouve ça beau? Ben là, c'est une autre question pour une autre chronique.
On en reparlera dans une autre chronique. Merci beaucoup, Amélie Nadeau, d'être passée pour la chronique à l'Est de vos empires. On en a appris beaucoup aujourd'hui. Merci.
Ben, merci à toi de m'avoir accueilli.
On y va avec une chanson de Zouz, évidemment, parce qu'on va accueillir David Marchand tout de suite après. C'est sur l'album Vertige et on va y aller pour la chanson J'ai demandé à personne. On y va. Et au retour, ben, comme je l'ai dit, ça va être... le temps de la chronique. Vous écoutez Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3.
She is
Vous êtes de retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Il est 16h20. On est le vendredi 22 octobre. Je suis avec le trio, le seul et l'unique. C'est le Ben Zouz qui était en lancement hier au Pantoum. C'est aussi demain, ce soir. Qu'est-ce que je dis? C'est ce soir. Salut les gars, comment ça va?
Ça va très bien, toi, mon cher Félix.
Ça va. C'est vendredi, on est content, on aime ça.
Voilà.
Vous revenez du Pantoum. Vous faites un show double, si on pourrait dire, une performance hier, une performance demain. Voyons, qu'est-ce que je dis?
C'est bien
que
demain. Ce soir.
Ce soir. Hier, c'était comment au Pantoum? Je n'y étais pas. Décrivez-moi qu'est-ce que je pouvais voir. J'ai pu évidemment entendre dans les stories, mais ça c'était comment en personne?
Vas-y, mon boy.
C'était cool. Il y avait pas beaucoup de monde parce qu'on peut pas la salle peut pas contenir autant de monde, mais au moins il y avait Chuck, notre soundman.
Au moins Chuck était là.
Chuck était là. puis grâce à ça, ben c'était sick. Mais je niaise un peu. J'espère qu'il entend ce segment-là. Mais,
on le salue.
Mais en fait, c'est le fun de pouvoir commencer à aller jouer au Pantoum. Mm-hmm. Il avait fait une nouvelle salle il y a quelques années. Puis là, il y a eu des complications avec la ville. Ils ont dû arrêter, pas profiter de cette nouvelle salle-là qu'ils avaient montée. Puis là, tout est en règle. Mm-hmm. Il y a quand même le COVID qui réduit beaucoup la quantité de gens qui peuvent y assister. Mais on est content pareil. Fait qu'on en fait deux. On fait deux shows au lieu d'en faire rien qu'un. Puis c'est super le fun. On est avec Arnaud, un ami qui est éclairagiste aussi, qui a fait un setup vraiment, vraiment cool. C'est le fun de se gâter pour le lancement et faire de quoi de gros. On a été invités. On a deux de nos amis qui nous accompagnent aussi, Naomi puis Shaina, qui viennent chanter avec nous autres. Fait qu'on fait comme un show un peu exceptionnel. Ouais, c'est ça, super cool. Qu'est-ce que tu allais dire, Francis?
J'allais dire ça, je crois.
Ah, OK.
Il n'y a pas de stress.
Ah, OK.
Et je vous accueille évidemment pour ces spectacles-là, spectacle de lancement d'un album qui est sorti dernièrement, Vertige. C'est votre premier album, donc c'est pas rien. Après avoir sorti deux EP, dont le titre EP1, EP2, ça y va comme suit. Vertige, pourquoi avoir pas appelé ça album 1?
Ben, pour être un peu plus original, un peu plus... Ouais, trouver un thème. C'est plus plaisant aussi, je trouve.
Tout à fait.
Je pense que les premiers EP, c'était par défaut qu'on les... de pas trouver de meilleurs noms, on les nommait pas, on les numérotait, fait que... Puis là, c'était le fun de donner... Vas-y, Francis.
Cet album-là avait aussi plus un thème récurrent. On dit que les EP, c'était plus... il y avait moins une idée derrière le tout. Tandis que cet album-là, c'est plus concis, c'est plus... Puis Vertige, ça parle bien de cet album-là.
Exactement. On voit aussi on comprend toute la signification avec la pochette, évidemment. On voit tous ces gens qui tombent du haut. Je me suis rendu compte qu'on n'a même pas fait de présentation. Je vous ai dit que vous étiez Zouz, que vous êtes allé au Pantoum hier et que vous y retournez ce soir pour lancer l'album Vertige. Mais je suis avec David Marchand, qui fait la guitare, qui fait la voix. Je suis avec Étienne Dupré, qui fait la basse et le clavier. Je suis avec Francis Ledoux, qui fait la batterie. On vous connaît pour Zouz, on vous connaît pour plein d'autres projets. Comme je disais hors onde, à chaque fois que je vois David, c'est pour un autre projet que Zouz. On s'est vu pour Laurent Sane, pour Mon Doux Seigneur. J'ai envie de vous demander... Comment est-ce que vous avez trouvé le temps de faire cet album-là?
C'est sûr qu'on avait plus de temps ensemble parce qu'il y avait le COVID.
Ouais.
Mais je pense que c'est plus une question de prendre le temps que de le trouver dans notre cas. Mm-hmm. Puis, je pense
mais prendre le temps veut aussi dire de l'enlever pour d'autres projets.
Oui, mais ça va de soi, tout à fait. Mais je pense que le timing était bon, on était prêts, on avait assez réfléchi, on avait assez jasé de qu'est-ce qu'on voulait faire, qu'est-ce qu'on voulait pas faire. Mm-hmm. Puis en plus, ben, le COVID est arrivé. Puis ouais. Ben voilà.
Ben voilà. Tantôt, on parlait justement de Vertige, de ce premier album-là. Comment est-ce que vous êtes arrivé à composer...
cet album-là, puis de trouver vraiment le concept avec Vertige plutôt que de juste proposer de la musique comme ça parce que vous avez composé, parce que vous voulez le partager. Là, vous avez vraiment un concept derrière tout ça. Comment est-ce que vous avez créé tout ça?
Ben, je sais pas si on peut parler d'un concept. Là. C'est, en ce cas, c'est pas un album concept comme ceux des années 70.
Ouais.
Mais je pense que c'est plus une thématique
ouais.
Qui est récurrente dans certaines chansons. Les thèmes abordés comme, mettons, l'amour, le mal-être, ou c'est pas mal les deux sujets, sont, eux, assez récurrents. Puis... Puis je pense que la musique se promène de pic en pic, puis c'est peut-être un peu vertigineux des fois pour nous autres de le jouer. Mm-hmm. Ou de... En tout cas, c'est comme juste avant de jouer le spectacle hier, j'avais vraiment l'impression qu'on était comme avant d'embarquer sur scène, c'était comme une espèce de. On dirait qu'on embarque sur scène comme on prend un train.
Ouais.
Puis le train n'arrête pas, là, tu sais. Ouais. C'est qui fait ça? C'est José Lito?
On prend toujours un train.
On prend toujours un train.
Ouais.
On prend toujours son bain, comme dirait notre sonorisateur Chuck.
Oui.
Puis Zeus prend toujours un train. Donc on arrive sur scène, comme sur le quai de la gare.
Ouais.
Puis on embarque dans le train.
Mm.
Et quand le train part, il n'arrête pas jusqu'à la fin. Fait que ça peut être un peu vertigineux des fois.
Je comprends, tout à fait. On prend toujours un bain. Vous êtes plus des gars de bain plutôt que de douche?
Moi, c'est douche, mais Francis, c'est...
J'adore les bains, mais je le fais pas parce que
c'est
trop
long,
grand.
Hein? Je pensais que tu me disais c'est trop long.
Non, je suis juste un géant, puis j'ai jamais un bain où est-ce que je suis pas genre en petite boule pour fitter dedans.
Moi, j'haïs les bains. J'haïs ça. J'en ai pris un récemment, puis parce que je filais bizarre, je filais comme un peu, je sais pas, me sentais un peu enrhumé, puis là, puis j'embarque dans le bain, puis là, il est full chaud, puis il est full d'arômes, genre de savon, puis de bulles, je sais pas quoi. Puis là,
mais c'est charmant, comme... c'est le fun, c'est confortable.
Ouais, on dirait que ça me rendait fiévreux, puis j'étais comme, voyons, j'haïs ça dans le fond. Je me suis toujours senti de même, j'en ai toujours pris pareil, ben voilà. Fait que là, j'ai décidé que j'aimais pas les bains, puis donc... que j'en prends, genre, je douche, elle me douche.
Donc, t'aimes pas les bains, t'es trop grand pour les bains, David, finalement, t'es pas mal tout seul dans ce concept-là.
J'aime pas particulièrement les bains.
Moi. Bon, ben on sait maintenant, Zouz n'aime pas les bains.
Contrairement voilà. À Chuck. Chuck, il adore ça.
On le salue, Chuck. Ouais. J'ai envie de vous laisser le mot de la fin. Je vois le temps qui avance, puis on va vers la pause publicitaire. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, une annonce à faire, une salutation, et une autre nouvelle à nous annoncer, à part le fait que vous n'aimez pas les bains?
J'aimerais saluer encore une fois notre ami Jean-Étienne Colin-Marcoux.
Yeah.
Pour qui, avec qui je partage une grande passion pour le café filtre.
Okay.
Et sûrement maintes autres passions, toujours à découvrir.
Oui.
Donc j'aimerais encore une fois et toujours et jusqu'à la prochaine. Jusqu'au prochain train.
Mm-hmm.
Encore une fois, mon cher ami Jean-Étienne Colin-Marcoux.
On le salue.
Incroyable.
Moi, je salue Chuck au passage aussi, encore une fois.
On l'aime, Chuck.
Ouais.
On l'aime et on le salue. Il est sûrement en direct de son bain aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il doit être dans son bain pour avoir les doigts vraiment tout ratatinés pour le spectacle. Ça va être le fun. Ben, je vous souhaite un bon spectacle ce soir.
Merci.
Sur ce, on va vous représenter, évidemment. J'étais avec David Marchand, Étienne Dupré, Francis Ledoux. C'était le trio de Zouz. Ben, j'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop vertigineux. Cette entrevue est allée dans tous les sens. Non, ça a bien été?
Non, c'était juste assez.
Parfait. Merci.
Oui, c'est bien.
On se dit à la prochaine. Pour un autre projet, j'en suis sûr. Ou encore pour Zeus, si vous revenez, venez-vous-en. Faites une perfo, si vous voulez. On va tout vous arranger la prochaine fois que vous venez dans le studio.
Certainement. Yeah.
On en prend bonne note, mon cher Félix.
À la prochaine.
À la prochaine.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
T'as envie de rire, te divertir et parler des vraies choses? Entre toi et moi, c'est la nouvelle émission sans tabou à ne pas manquer cet automne. Rejoins-nous chaque mercredi de 9h à 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
Parfois, l'actualité peut sembler nébuleuse, confuse, opaque et peut mener à des questions du genre « C'est qui ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en parle? » Chiz 94.3 a la solution miracle pour toi. Écoute Un fort dans le midi tous les jours en semaine dès midi. Avec Guillaume Bédard et son équipe, on est là pour t'éclairer sur les enjeux d'actualité. Avec des chroniques, des analyses, des entrevues, du contenu pertinent et recherché. Un fort dans le midi, c'est ta quotidienne d'actualité pour tout savoir et tout comprendre sur les ondes de Chiz 94.3.
Hey Pat, qu'est-ce que Jean Leloup, Jane Austen et Salvador Dali ont en commun?
Des cheveux?
Ben, j'allais plutôt dire qu'ils peuvent tous nous apprendre de grandes et de petites choses sur la vie grâce à leur rapport créatif et intellectuel dans leurs disciplines respectives.
Ah, donc c'est pour ça qu'on parle d'eux à la Planète des Sages, l'émission qui, chaque semaine, s'intéresse à la pensée d'une figure populaire afin d'en retirer un peu de sagesse.
Rendez-vous les jeudis 11h sur les ondes de Chiz 94.3.
Fait que les cheveux, c'était pas bon?
Non, c'était pas bon.
De retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Il est 16h34 et c'est maintenant le temps d'y aller pour l'entrevue avec l'auteur de la chanson que vous venez d'entendre. La chanson, c'était Tremble. C'est sur le EP Sans Brume et c'est le projet de Projet Jacob. Et on reçoit justement Jacob Lafrance par téléphone. Salut Jacob, ça va bien?
Salut, ça va bien, toi?
Oui, je le disais, puis je voulais te poser la question. Tu as décidé ça d'appeler Projet Jacob. C'est quoi? T'aimes la simplicité? T'as voulu que les gens, justement, se rappellent facilement ton nom? Comment est-ce que tu es arrivé avec Projet Jacob?
Moi, Projet Jacob, à la base, on est dans. Ben, je pense que je suis dans un esprit quand même. Ouais, j'aime ça, la simplicité, comme okay. tu dis. Puis, genre, à la base, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ben, je faisais des démos, puis j'envoyais les démos à mon band. Puis, je savais pas trop comment appeler le dossier sur notre drive, fait que j'ai appelé ça Projet Jacob.
Wow, puis c'est resté, finalement.
Ben, ouais, ben, je me suis un peu battu pour changer de nom, puis au final, comme tout le monde s'est trop mis à appeler ça de même, fait que c'est finalement resté ça, puis je me suis mis à aimer ça aussi. Fait que, tout ouais, c'est fait. Ça l'histoire.
On se parle aujourd'hui, en ce 22 octobre, parce que tu nous présentes ce EP qui s'appelle « Sans brume ». On va commencer peut-être par une présentation avant de sauter dans le vif du sujet d'aujourd'hui. J'ai envie qu'on parle de toi, de ta découverte de la musique, de finalement aussi décider de partager cette musique-là au monde. T'es un auteur-compositeur de Trois-Rivières. Parle-moi un peu de toi, de comment est-ce que t'es arrivé à faire de la musique.
Yes, ben je pense comme ben des petits gars, j'ai recommencé la guitare à 8 ans à peu près, puis ben ça a toujours été dans ma vie sans être jusqu'à mettons fin de secondaire que je me suis mis à comme vraiment me concentrer là-dessus puis à écrire des tunes. Puis ben de fil en aiguille, genre je voyais pas d'autre chose qui me passionnait autant que la musique dans ma vie, fait que je suis venu à Montréal pour faire des études en musique numérique à l'Université de Montréal. Puis ben c'est là que le déclic s'est fait, en gros, là.
Ouais.
Depuis ce temps-là, ben ouais, c'est ça. Je fais des tunes, puis j'enregistre des bands. Puis ouais, c'est pas mal là-dessus que je me concentre.
J'ai envie de savoir pourquoi avoir arrêté son choix sur la guitare plus qu'un autre instrument. On sait que, comme tu l'as dit, quand on est jeune, on se fait proposer des instruments. Moi, ça a été le piano. Toi, ça a été la guitare. Il y en a pour qui c'est le violon. Pourquoi avoir choisi la guitare?
Mon père jouait de la guitare, je pense. Okay. Puis, ouais, c'était assez classique, je pense, mais assez tôt, j'ai été comme fasciné par les auteurs-compositeurs, là. Fait que je me suis dit que comme la guitare, c'était un peu l'instrument par excellence pour faire ça puis écrire des chansons, là. Mm-hmm. Mais ouais, c'est pas mal ça, en gros.
Puis, ben, on peut y aller, finalement. Maintenant qu'on se connaît, Jacob Lafrance, on va parler de ton EP Sans brume. Ce EP qui est sorti aujourd'hui, qui est disponible partout, on invite les gens à l'écouter ça. C'est 4 chansons. Pourquoi avoir justement rassemblé ces 4 chansons-là ensemble? Est-ce que c'était parce que t'en avais composé plus que t'as fait ce choix-là? Est-ce que ça a été parce que ces chansons-là abordaient les mêmes thèmes? Comment le choix finalement s'est arrêté sur ces 4 chansons-là?
Je te dirais que ces 4 chansons que j'ai comme... Ça fait un bout, je les traîne. C'est des chansons que j'ai composées pré-pandémie.
OK.
Puis, en fait, c'était pas mal comme les... Je sais pas, là, c'était un peu le départ. Au départ, je suis inspiré beaucoup par le shoegaze un peu. Puis ouais. Les tunes, finalement, on les a rendus un peu plus touch universel. Plus qu'on pourrait dire, là, on a comme rendu les tones un peu plus classic rock traditionnel, mettons. Puis ben, je pense juste que c'était 4 tunes que j'aimais beaucoup. Puis à la base, en pleine pandémie, là, ça faisait un bout que j'avais les chansons. Puis... Dans le fond, mon band, c'est 4 amis proches qui sont dans des bands ensemble, eux, de leur bord, puis on avait comme jamais joué ensemble. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'avais ces 4 tunes-là, puis j'ai dit au gars, hey, là, ça fait... Genre, je pense que c'était un moment de pandémie où que tout était arrêté, puis on avait comme vraiment besoin de juste faire du rock. Mm-hmm. Fait qu'au final, on s'est juste rassemblés. Je pense qu'on a fait 2 pratiques, puis ouais. on s'est appliqué tout de suite, puis on est allé enregistrer ça dans un chalet, là. Fait que c'était hyper comme... En fait, viscéral, puis sans trop se casser la tête, le projet, puis je voulais qu'au final, le produit ressemble à ça, tu sais, c'est vraiment, c'est quand même du rock, comme sans artifice, puis straight to the point, qu'on pourrait dire, puis je suis assez content de ça.
T'as parlé de plein de choses auxquelles j'aimerais qu'on s'attarde. T'as parlé des gens autour de toi. T'as parlé de cet enregistrement-là dans le studio chalet de la Minerve. On peut peut-être commencer par cet enregistrement-là parce que il y a beaucoup d'artistes qui ont cette habitude-là de finalement partir en retraite dans le bois pour enregistrer ou pour composer. Puis ça m'a toujours fasciné aussi de voir ces artistes-là partir puis finalement ils reviennent, ils ont déjà de quoi, ils réussissent à créer. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de faire ça dans le studio chalet?
c'est beaucoup un vibe. C'est sûr que présentement, moi et mes amis, on s'enregistre nous-mêmes, puis on se fait de l'expérience au travers de nos projets. C'est ça qui est cool. J'ai l'impression, je sais pas, c'est eux autres qui ont starté la mode. Là. J'ai co-réalisé l'album avec Christophe Charest-Latil du groupe Montrose. Puis ben c'est un peu eux autres qui ont découvert le chalet, puis de fil en aiguille dans notre gang d'amis, c'est un peu rendu un... quasiment un running gag qu'il faut aller au chalet pour faire nos albums. Mais ouais, il y a quelque chose de spécial de comment être à l'écart, puis juste la proximité avec la nature, se détacher de la ville, puis juste aller composer jusqu'aux petites heures, puis faire ça. Là, je sais pas, c'était vraiment, nous autres, c'était 3 jours vraiment intenses. Là, on a claqué le EP en 3 jours, comme beaucoup de café, beaucoup de fun, là, puis tout seul.
Puis, je voulais savoir, parce que ça a été enregistré là-bas, mais à quel point est-ce que les chansons étaient déjà prêtes en termes de structure? Comment ça s'est fait? Est-ce que tout s'est créé là-bas et enregistré, ou comment ça s'est passé?
Pour cet album-là, pour ce EP-là, j'ai pas mal tout composé les parts, en fait.
Okay.
Il y a eu un petit peu de réarrangement sur place avec les gars. C'est sûr qu'il y a leur mot à dire aussi.
Mm-hmm.
Mais c'est ça, j'avais vraiment une idée claire de comment je voulais que les tunes sonnent, puis l'esthétique aussi.
Mm-hmm.
Fait que c'était beaucoup de juste comme apprendre les parts, puis là-bas, comme on les a comme recrachés un peu. Là. C'est sûr qu'on n'avait pas beaucoup de temps, puis on n'avait jamais joué ensemble, fait qu'on a peu le temps de développer les parts ensemble.
Ouais.
Mais ouais, c'était pas mal ça le processus. Puis, tu sais, on dirait que toutes les tunes que je faisais à ce moment-là, ils sonnaient toutes un peu comme ça. Je fais de la production aussi pas mal. Je fais du. C'est par ordinateur, je fais du hip-hop. Fait que je suis habitué de comme produire des chansons de mon bord. Fait que c'est pour ça que je les ai comme faites de A à Z un peu avant qu'on aille les enregistrer. Là.
Est-ce que je t'ai bien entendu dire aussi que tu faisais du hip-hop?
Ouais, ben je fais de la production, en fait.
Ok, ouais.
Ben, du hip-hop, de la pop, là, dans le fond, ces temps-ci, ben, il y a la... En fait, je suis produit pour une artiste qui s'appelle Carla Chanel.
Oui, ok.
Ouais, fait que, ben, c'est ça, c'est moi qui fais la musique pour elle, puis c'est moi qui l'enregistre aussi, là, fait que c'est cool.
Je pense que je l'ai même aperçu dans le vidéoclip de Lumière Noire, ça se peut.
Oui, tout à fait. C'est bien ça.
C'est la grande famille Bon, évidemment, comme tu l'as dit. J'aimerais conclure avec les gens qui t'entourent, maintenant qu'on en parle, de parler de Christophe Charest-Latil, qui est dans Montrose, qui est musicien aussi pour Vanille. Parle-moi des autres personnes qui font partie de ce projet-là, Julien et Philippe.
Ouais, Julien Contour, également musicien dans Montrose.
Ouais.
Un très bon ami que j'ai rencontré à l'Université de Montréal, en fait. On a fait le même programme ensemble.
OK.
Ouais, il est dans Montrose. Il y a aussi son band Corail, avec Philippe Noël également, qui est dans Corail. Les deux sont le duo Corail. Fait que c'est ça. Philippe à la guitare, Julien à la prise de son. Il a aussi fait la batterie. Puis Christophe, lui, la co-réalisation avec moi. Puis la basse, ouais.
Ben, maintenant qu'on sait c'est qui Projet Jacob, c'est qui les musiciens, on te connaît aussi, Jacob Lafrance. On en a appris plus sur toi aujourd'hui grâce à cette entrevue. On invite les gens à l'écouter, ce EP qui s'appelle Sans brume. Et je rappelle encore que ça s'appelle Projet Jacob. Ben, merci beaucoup d'être passé à Chérie J'arrive, Jacob. C'était super le fun.
Ben, merci beaucoup à toi. Puis, bonne fin de journée. Là.
Merci. Salut.
Salut.
Yeah.
Vous êtes de retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Vous écoutiez Flotter, c'est la dernière chanson du EP de Projet Jacob. Et justement, je lui parlais de ce projet-là qu'il a fait au studio Chalet, la Minerve. Il est entouré des gens de Bonbonbon, entre autres avec Christophe Charret, Latif et Julien Contour. Mais là, l'entrevue est terminée. Je suis maintenant en studio avec Camille Bernacchi. Salut Camille, comment ça va aujourd'hui?
Salut Félix, ça va très bien et toi?
Ça va bien, c'est vendredi, la fin de semaine qui commence, même semaine de relâche qui va commencer pour ceux qui vont à l'université. C'est la deuxième fois qu'on se voit, nous, radiophoniquement, cette semaine.
Deuxième ou troisième?
Ben, deuxième.
Oh, cette semaine!
On s'est vu,
oui,
c'est
raison,
ça. On s'est vu à la cuisine pour le spectacle, l'émission de lancement. C'était pas vraiment un spectacle. Et là, on se voit pour ta chronique. Tu m'en as parlé, tu me l'as présenté. Et là, tu vas poursuivre cette chronique où tu nous fais voyager avec Passeport culturel. Tu nous amènes en Amérique du Sud. Je te laisse présenter ton sujet.
On s'en va au Brésil. J'aimerais vraiment ça, m'en aller au Brésil pour de vrai, mais pas juste à la radio aujourd'hui. mais bon, on va prendre ce qui passe. Donc, cette semaine, je vous amène au Brésil. Je vous fais découvrir une artiste féminine inspirante du nom de Céu, qu'on appelle C-E accent aigu U pour les curieux. Yeah. Avant d'entrer dans le vif du sujet. Je suis curieuse et j'aimerais savoir, Félix, toi, la musique brésilienne, est-ce que tu t'y connais un peu? Est-ce que ça me dit quelque chose?
Ça me dit quelque chose. Dans des cours de musique que j'ai fait dans mon bac, ça me parlait beaucoup de la bossa nova. Des rythmes qui sont associés à l'Amérique du Sud, à la danse caliente, qu'on pourrait dire. mais non, à part de ça, j'ai pas des connaissances approfondies de la musique brésilienne.
À l'écoute de Céu cette semaine, j'ai vraiment entendu différents instruments. C'est ça que je trouve qui est la particularité de la musique brésilienne. Mm-hmm. T'entends du maracas, t'entends de la guitare acoustique. Okay. Donc, différents sons, mais qui se mélangent vraiment bien ensemble. Mm-hmm. Bon, là, je vais vous parler un peu plus de Céu. Céu est une artiste que je n'ai pas spécialement dans mon cœur, puisque je l'ai connue en 2008, lorsque j'avais à peine 9 ans.
Okay, mais ça fait longtemps.
Oui, vraiment, ça fait quelques années déjà.
Quand
là,
même, plus de 10 ans.
Ça a trahi mon âge, dit-elle. Mes parents l'écoutaient beaucoup et ils m'avaient emmenée au Festival d'été de Québec sur la scène de la place Diouville pour assister à son concert. On écoutait souvent sa musique lorsqu'on partait en road trip en famille. Donc, elle représente pour moi des beaux souvenirs d'enfance et j'ai eu la chance de la redécouvrir cette semaine au travers de l'écoute de son premier album à succès, paru en 2007. Le titre de l'album, c'est son nom, tout simplement.
Okay.
Céu est née le 17 avril 1980 à Sao Paulo, au Brésil. Son nom complet est Maria do Céu Whittaker Possas. J'essaie de le prononcer comme il faut, mais les Brésiliens vont certainement me reprendre. Elle vient d'une famille de musicien. Son père est un compositeur et musicologue. C'est grâce à lui qu'elle découvre des auteurs-compositeurs classiques brésiliens qui l'inspireront plus tard à faire de la musique. Mm-hmm. C'est plus précisément à 15 ans que Céu se lance dans le monde artistique. Elle décide d'étudier la théorie musicale et d'apprendre la guitare acoustique brésilienne. Elle s'inspire du blues, du hip-hop, de la samba, de la valse, du soul, de l'afrobeat et de l'électro-jazz pour développer ses compositions. C'est donc un style de musique qui est assez particulier. Comme je vous disais, là, vous allez entendre différents instruments. Ouais. Puis vous allez pouvoir le constater dans la chanson Lenda, provenant de son premier album, qu'on vous joue tout de suite.
Me tento, fique esperto. Hoje não tem papo. Jogo-lhe quebrante. Num instante você vira sapo. Bobeou na crença, príncipe. Volta ao seu posto de lenda. Ei, 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 ei. Então me tento, fique esperto. Hoje não tem papo, jogo-lhe quebrante. Num instante você vira sapo. Bobeou na crença, príncipe. Volta ao seu posto de lenda. Seu nome na boca do sapo. E sua boca. Ah, ah,
revenir au Québec, malheureusement.
Malheureusement.
C'était C'est où avec la chanson Linda.
Comment t'as trouvé?
C'est une bonne musique, j'ai envie de dire, d'ambiance. Mm-hmm. On se laisse porter par sa voix et toutes les, comme tu l'as dit, la panoplie d'instruments qu'il y a en arrière, la guitare, entre autres. J'ai entendu un peu de piano aussi, je pense.
Oui, oui, oui. Hmm. C'est ça, là, on est vendredi, puis... Là, je viens toujours les vendredis, mais je ne mets pas de la musique d'ambiance d'un vendredi. Mais quand même, je trouve que c'est...
Ça fit avec la semaine de lecture de la semaine prochaine. On va lire, prendre un petit café ou se faire un petit potage, puis mettre ça en fond, en trame sonore, ça va être parfait.
Exactement. Donc, c'est après son adolescence que C.O. déménage à New York. C'est dans cette ville qu'elle rencontre son collègue musicien Antonio Pinto, qui l'aidera à développer ses compositions musicales. Elle est connue à l'international, principalement aux États-Unis, en France, aux Pays-Bas, en Italie et au Canada. Son premier EP a d'ailleurs été téléchargé à plus de 110 000 exemplaires. Elle a également terminé l'année 2007 en étant l'artiste la plus vendue au Brésil. Et c'est en 2008 qu'elle reçoit une nomination aux Grammys pour le meilleur album de musique du monde.
Ouh.
Quand même, c'est quelque chose.
Est-ce qu'elle a gagné ou elle a juste été nommée?
Elle a juste été nommée.
Malheureusement.
Malheureusement. Mmh. De plus, son deuxième album, Vagarosa, paru en 2009, se classe au deuxième rang du Billboard américain de musique du monde. Depuis, C.O. a sorti 5 albums, dont un acoustique et un autre comprenant seulement des chansons interprétées en direct. Mmh. Je vous invite donc à visiter toutes les plateformes où vous pourrez écouter et profiter de sa magnifique discographie.
Sa dernière sortie, tu sais, à date de quand?
2021.
2021, OK. Donc, elle est encore très active.
Ouais, j'ai essayé d'écouter sa nouvelle musique, mais c'est difficile quand on a un album qui nous rappelle des souvenirs d'enfance, décrochés de cet album-là. Donc, j'ai pas creusé sur ses nouvelles compositions, pour être honnête, mais je pense que ça vaut la peine d'être découvert.
Je peux comprendre que tu avais un coup de cœur avec cet album-là de 2007, comme tu me disais, puis avec des souvenirs. Ça nous fait toujours revenir vers des chansons qu'on aime quand on a des beaux souvenirs associés à ça. Avant qu'on y aille pour la pause publicitaire, je voulais savoir comment est-ce que C.O. est revenu dans ta vie? Tu me disais que tu l'as redécouverte dans les dernières semaines. C'est comment c'est arrivé?
Ben en fait, cette semaine, je cherchais un artiste portugais. Mm-hmm. Puis, il y avait une chanteuse en particulier qui m'intéressait. Finalement, en creusant, je me suis juste rappelé Brésil, c'est où? C'est juste revenu comme okay, ça, ouais. Là, naturellement. J'étais tellement contente de... Mm-hmm. Justement, vu que c'est un souvenir d'enfance important et précieux pour moi, j'étais juste contente que ça me soit revenu. Mm-hmm. Puis d'avoir pu réécouter ces chansons, je les ai remis dans ma propre discographie, dans mes propres chansons aimées de Spotify. Donc, voilà.
Ben, et t'en profites en plus pour partager cette belle découverte. On vous invite, comme tu l'as dit, à aller voir toute la discographie de cet artiste qui s'appelle C'est où. On va rappeler évidemment comment ça s'écrit aussi pour donner la chance aux gens de la chercher.
Oui, C-E accent aigu U. Puis, j'ai fini la chronique en vous présentant la chanson « Male Molencia » qui provient de, encore une fois, son premier album qui est paru en 2007. Donc, on vous la lance sans plus tarder. « Veio até
mim » Avant qu'on y aille, on va se dire bonne semaine.
Bonne semaine, Félix.
À la prochaine, Camille.
À la prochaine. Não pedi minha permissão. Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. Yeah.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Tu veux vivre l'expérience étudiante ultime à deux pas de l'université? Viens découvrir le BAC, des appartements pensés et conçus pour maximiser tes études et ton réseau. Que ce soit seul ou avec des colocs, tu trouveras ton espace. Espace d'études, de travail collaboratif, de rencontres, de jeux et même un salon avec écran géant pour écouter les matchs du Rouge et Or. Tu profiteras de chaque moment. Le BAC, l'appart bien pensé, bien situé. Lebac.ca.
Sur une distance de 20 verres, la coupe vanille au bout du pied.
Frappé solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
T'as envie d'une solution clé en main pour dénicher les meilleures nouveautés musicales? Facile! Suffit d'écouter le Démineur. Chaque lundi soir, je fais un tour d'horizon des meilleures sorties musicales de la semaine, tous styles musicaux confondus. Aucune raison de te perdre dans le flow des sorties musicales. Écoute Démineur, ton phare dans la nuit. C'est un rendez-vous les lundis soirs dès 21h sur les ondes de Chiz 94.3.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés.
Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 13h sur les ondes de Chiz 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
Vous êtes de retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Il est 17h03. On est ensemble pour encore une demi-heure. Vous écoutez la première chanson de l'album de Uri qui s'appelle Frame of Fauna. C'était la chanson qui s'appelle Ossature. Et c'est assez spécial, mais ça vaut la peine. On l'aime bien, Uri, ici à Chiz. Elle sera d'ailleurs au Pantoum le 11 novembre prochain. On va parler de la chronique Histoire de lire, parce que je suis avec Alex Tremblay-Lamarche en studio. Salut Alex, comment ça va?
Salut Félix, très bien. Ça a été une grosse semaine, oui. Notamment avec la Maison Chevalier.
C'est ça.
Comme on s'apprête d'en parler, ouais. Mais content d'être avec toi pour en parler.
On a une grosse semaine, on a eu deux débats. Oui. Où le débat de l'environnement, c'est la semaine passée, c'est ça?
Si je ne m'abuse, au début de la semaine.
On est dans une grosse campagne électorale municipale. On va parler d'un de ces enjeux. Est-ce qu'on peut parler d'un enjeu majeur de cette campagne ou plus un enjeu comment est-ce que tu le perçois, cet enjeu-là?
Je dirais que le patrimoine est un des enjeux majeurs de la campagne municipale. Ouais. Le vérificateur général, notamment, a récemment mis de l'avant que la Ville de Québec gérait mal son patrimoine, ne possédait pas les connaissances nécessaires pour prendre des décisions, bien souvent, qu'il y avait beaucoup d'occasions manquées. Et c'est un sujet qui a été amené dans le cadre des débats à de nombreuses reprises. Dans le cas qui nous intéresse, la Maison Chevalier, on est du côté d'un bâtiment qui était la propriété de l'État provincial, donc du gouvernement du Québec. Mais, veut pas, comme c'est en plein cœur du Vieux-Québec, que c'est un des bâtiments qui est le visage de la Ville de Québec, la Maison Chevalier, on est dans quelque chose qui se répercute aussi du côté de la campagne municipale. D'ailleurs, Jean Rousseau a pris la parole lors d'une conférence de presse lundi. Et si je ne m'abuse, Bruno Marchand a également fait écho à la question de la Maison Chevalier. Donc oui, c'est un sujet chaud, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé cette semaine et on en parle aujourd'hui.
On parlait du patrimoine, entre autres pour la préservation des églises. Là, on parle de la Maison Chevalier. Avant qu'on parle évidemment aussi des ouvrages que tu m'as apportés aujourd'hui, on peut parler de cette maison qui, là, on parle de garder ça parce que c'est patrimonial, c'est important, autant pour la ville que pour toute la province de Québec. Ça a été acheté par une entité privée. Mm-hmm. La Maison Chevalier, avant tout ça, c'était quoi?
Excellente question. Pour nos auditeurs qui connaissent un peu le Vieux-Québec, mais sans pour autant être des familiers avec son patrimoine, vous arrivez, que ce soit par le traversier, que ce soit en croisière, que ce soit par la route là, via le boulevard Champlain, et vous avez devant vous, en basse ville, près de l'endroit où il y a un croche, une superbe maison très imposante avec un beau toit rouge qui est faite en U, dans une certaine mesure, qui est juste à côté de la rue du Petit Champlain, là, devant cette rue-là, juste derrière Place Royale. C'est une maison qu'on ne peut pas manquer lorsqu'on regarde la ville de Québec depuis Lévis. La carte de visite de la ville, c'est le château Frontenac avec la terrasse du Frein et juste en bas, la maison Chevalier. Ouais. C'est une maison qui est particulièrement importante parce qu'elle date du régime français. Ses composantes les plus anciennes remontent au 17e, mais le gros de la maison remonte au milieu du 18e siècle. Et c'est une des rares maisons d'esprit français à avoir été préservé. Parce qu'en 1759, les Anglais vont s'installer du côté de Lévis et vont bombarder la ville. Mais vraiment, ils bombardent la ville et au terme du siège de Québec, il ne reste plus grand-chose de debout. Et donc, aujourd'hui, le patrimoine du Québec, il est principalement britannique, parce que c'est ce qui a été reconstruit après. Or, Jean-Baptiste Chevalier, celui qui a donné son nom à la maison, qui est un marchand qui possède les lieux, il ne fait que réparer le toit après la conquête. Et donc, on peut estimer que les dommages à cette maison-là ont exceptionnellement été relativement peu importants. Et donc, on est face à une des rares maisons du régime français qui a été relativement bien conservée. Et surtout, on est face à la première maison que le gouvernement du Québec a décidé de revitaliser et de restaurer en 1956 lorsqu'il va lancer le chantier de Place Royale. Si c'est si beau que ça aujourd'hui, le Vieux-Québec, si Place Royale, c'est un endroit autant instagrammable, j'ai envie de dire, c'est en grande partie parce qu'on a lancé des travaux de restauration à la fin des années 50, mais plus dans les années 60 et 70. Et c'est par la Maison Chevalier qu'on a commencé à le faire. Fait que c'est un symbole important dont l'État choisit de se départir en voulant le vendre au groupe Tanguay. Et c'est pourquoi il y a beaucoup d'acteurs du patrimoine qui se sont regroupés pour dénoncer cette décision.
Donc c'est un symbole, c'est justement, comme tu le dis, ça fait partie de la carte de visite de Québec. On le voit beaucoup quand on est de l'autre côté de la rive, quand on est sur la rive sud. On parle de préservation du patrimoine et tu m'as apporté trois essais que tu as trouvé en lien avec cette particularité qui est la Maison Chevalier et le préserver le patrimoine. Je te laisse présenter ton premier ouvrage.
Oui, j'avais envie, avec un premier ouvrage, de nous amener dans l'effervescence des années 1960-70. Si la Maison Chevalier, on commence à la restaurer en 1956, le gros des travaux à Place Royale va se faire dans les années 1960-70. Le Québec est en ébullition, c'est l'époque de la Révolution tranquille. Ouais. Et c'est cette époque-là dont nous parle Micheline Cambron dans dans Une société, un récit, discours culturel au Québec 1967-1976. Micheline Cambron, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle a décidé de s'intéresser à différents textes qui ont été produits au cours de cette époque-là. Et c'est assez divers, c'est assez bigarré. On pourrait se dire dans quelle direction est-ce que ça s'en va, mais au contraire, c'est justement ça qui fait que c'est intéressant parce qu'on scanne la société québécoise sous toutes ses facettes et ça nous permet de mieux la comprendre. Ces textes-là, qu'est-ce que c'est? Ce sont des chansons de Beaudommage, un essai de la journaliste Lysiane Gagnon sur l'enseignement du français, donc on est plus dans des articles là, de la journaliste de la presse, des monologues d'Yvon Deschamps, l'humoriste, la pièce Les Belles Sœurs de Michel Tremblay, les poèmes de Gaston Miron et le roman L'Hiver de Force de Régent Ducharme. Donc, comme je le dis, c'est assez bigarré.
C'est culturel même.
et c'est assez culturel, oui. Et ce qu'on a envie, ce que Micheline Cambron a fait à partir de ça, c'est d'être capable de dégager quelle était la vision que la société québécoise avait d'elle-même et comment est-ce que la société se projetait à cette époque-là où on est dans une période en effervescence, celle de l'Expo, celle des Jeux olympiques qui va mener jusqu'à la prise de pouvoir gouvernement québécois par le PQ. Et on voit justement qu'on est dans une période qui se transforme et que toutes ces idées-là percolent dans les œuvres. D'abord dans les œuvres qui sont peut-être un petit peu plus orales, puis ça s'en va dans des œuvres qui sont un peu plus pointues comme la poésie ou les romans un petit peu de la contre-culture. Mais dans tous les cas, effectivement, on voit cette société-là qui se définit et qui se raconte dans ce récit-là.
Je trouve ça vraiment intéressant parce que j'ai l'impression que tu me parles de cette époque-là des années 60-70 où la culture bouillait et aussi mettait de l'avant des idées qui ont été justement importantes socialement. Puis je sais pas si en 2021 on peut parler autant d'un corpus culturel aussi fort qui met des idées de l'avant. C'est assez intéressant. Puis ça nous replonge dans une époque qui était vraiment importante au niveau de notre identité en tant que peuple québécois. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire avant de passer à ton prochain.
Un petit dernier mot sur l'œuvre de Micheline Cambron. C'est assez intéressant parce qu'on voit qu'on passe d'une société qui est peut-être un petit peu plus conservatrice, un petit peu plus dans quelque chose là, qui est dans un discours qui est un petit peu plus un univers clos et rassurant, basé sur des souvenirs communs, comme on peut le voir dans les chansons de Beaudommage, où au départ, on est à Montréal, on est dans sa proche banlieue, comme dans Harmonie du soir à Châteauguay. On est dans ces quartiers. L'étranger fait peur, comme dans Le Phoque en Alaska. Et tranquillement, on passe de plus en plus vers un univers en conflit où il y a différentes choses qui s'affrontent et où il ne reste qu'une seule chose qu'on partage. Et au final, c'est une certaine solitude, comme on peut le voir dans Le Blues de la métropole ou Amène pas ta gang. Et donc, on voit cette vision-là qui caracole et percole des différents textes analysés par Micheline Cambron, que ce soit les chansons de Beaudommage, qui sont peut-être celles qu'on connaît encore le plus aujourd'hui, à la pièce Les Belles Sœurs de Michel Tremblay ou L'Hiver de Force de Régent Ducharme et les monologues de Yvon Deschamps. Donc, une belle plongée dans cette décennie d'effervescence et une belle façon justement de voir comment est-ce qu'on peut analyser une société à partir de ces textes.
Il y a encore quelque chose qui m'intéresse sur cet ouvrage-là. On va devoir enchaîner, évidemment, mais qu'est-ce qu'on retrouve avec Yvon Deschamps? Comment est-ce qu'on analyse ces textes, ces monologues, puis on se dit ça, c'est profondément québécois?
Eh bien, ce qu'on voit avec les monologues d'Yvon Deschamps, c'est que dans certains cas, il utilise des mécanismes d'identification, puis dans d'autres cas, des mécanismes de distanciation. Okay. Donc, souvent, il va parler du « nous », il va parler un peu de l'expérience québécoise, puis dans d'autres cas, il va faire de l'humour, justement, en pointant des cas dont on se distance un peu plus. Et donc, à partir de ces monologues, on est capable de voir comment la société québécoise se définit, comment, justement, elle passe un peu de ce « nous rassurant » à cet univers où on se pose un peu plus de questions. Donc, il y a moyen de faire une analyse de la société à partir de l'humour et c'est ce que nous montre Micheline Cambron dans « Une société, un récit, discours culturel au Québec ».
On va passer au deuxième. On parle des îles du Richelieu.
Oui, un ouvrage de Réal Fortin publié chez Gide. Les îles du Richelieu, eh bien, le titre est assez évocateur. On parle des îles de la rivière Richelieu entre la frontière américaine et le lac Saint-Pierre, donc le fleuve Saint-Laurent. Ouais. On parle, c'est ça, de toute une série d'îles qui sont à cet endroit-là. Et bon, on passe île par île leur histoire, leur nom, leur toponymie, leur occupation, ce qu'elles sont devenues. Et ben, la raison pour laquelle j'avais envie de vous parler de cet ouvrage aujourd'hui, c'est qu'on a un bel exemple d'ouvrage qui est capable de mettre en valeur un patrimoine, dans ce cas-ci un patrimoine qui est en partie historique, puisque ces îles-là ont été occupées par des humains, qu'il y a certaines constructions sur ces îles-là, et un patrimoine aussi naturel, parce que ben, il y a plusieurs de ces îles qui sont des lieux avec une diversité de faune, de flore, qui, bon, du fait de leur insularité, puis qui sont isolés dans la rivière, ont pu avoir des animaux et une végétation qui se sont développés à l'abri de l'exploitation de l'homme. Et donc, on a un ouvrage qui met en valeur ce patrimoine-là et qui nous permet d'en connaître l'histoire au fil d'une navigation, j'aurais envie de dire, le long de la rivière Richelieu. C'est comme si on faisait une croisière, qu'on croisait chaque île une après l'autre et qu'on en apprenait plus sur elle.
Bien, c'est toujours intéressant de parler des régions où on a parlé de plusieurs... j'ai envie de dire, municipalité autour de Québec. On en a parlé beaucoup et là, aujourd'hui, tu nous présentes les îles du Richelieu. On parle de patrimoine, on parle de préservation, que ce soit de bâtiments, que ce soit, tu nous as parlé des aspects plus culturels. On parlait des îles Richelieu. Ton dernier essai fait référence aux archives parce que... Ben, à l'époque, on pouvait pas tout archiver dans un ordinateur. C'était papier, c'était physique. Et ben, on comprend tous qu'on peut pas tout garder. Donc, on parle d'un ouvrage où on établit des choix, peut-être, ou comment est-ce qu'on le présente?
Tout à fait. L'ouvrage Archives, mémoire, art d'Anne Klein, publié aux presses de l'Université Laval, pour sous-titre Éléments pour une archivistique critique, et le sous-titre est assez bien choisi. C'est un ouvrage qui est à la fois, je dirais, théorique, donc se pose des questions sur qu'est-ce que l'archivistique, quelles sont les différentes tendances qui existent en archivistique entre, bon, disons, la version un petit peu plus traditionnelle puis la version un petit peu plus postmoderne, on y reviendra. Mm-hmm. C'est un ouvrage aussi qui se pose des questions sur l'archive. Qu'est-ce que c'est? Quel est le rapport qu'on a à l'archive? Et bon, ben, je trouve que ça pose des questions qui sont intéressantes dans le cas du patrimoine, parce que tout comme dans le cas des archives, on ne peut pas tout conserver. Mm-hmm. Et tout comme dans le cas des archives, eh bien, il y a un affect qui peut se développer à partir des archives. Souvent, bon, on a l'impression que ben, dans l'archivistique un petit peu plus traditionnelle, qu'on va garder les documents des grands hommes pour être capable de faire l'histoire par la suite. On a des séries des ministères, etc. Or, ben, ce dont on se rend compte de plus en plus, c'est que l'archive est fille de son temps et elle est toujours réinterprétée à la faveur de l'époque dans laquelle elle est rendue. L'archive peut également, bon, devenir un matériel artistique. T'as probablement déjà vu des œuvres d'artistes contemporains qui intègrent des photos d'époque, que ça soit justement, bon, des pages de magazines pour faire des collages ou des photos ou différents autres éléments archivistiques. Et actuellement, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Mm-hmm. Et le livre propose une réflexion aussi sur cette question-là.
Tu nous as parlé du sous-titre de cet essai-là. On parle d'archiver de façon critique. J'aimerais ça qu'on s'attarde sur cette particularité-là, parce que archiver veut dire garder plein d'informations, des documents qui peuvent peut-être nous permettre d'en apprendre, comme tu le dis, sur l'époque à laquelle ces documents ont été faits. Comment est-ce qu'on établit cette grille qui nous permettra de choisir si on garde ce papier-là, on le jette? Comment est-ce qu'on détermine ce qui est bon et ce qui ne vaut pas tant la peine de garder?
Bien, ça dépend de la perspective archivistique qu'on a, premièrement. Si on est dans une perspective archivistique plus traditionnelle, eh bien, on est dans l'approche de conserver pour diffuser, conserver pour faire l'histoire des grands hommes, comme je mentionnais. Mm-hmm. Et on pense toujours à qu'est-ce qui va être utile aux historiens dans 100, 200, 300 ans.
Donc, on parle d'utilité.
Oui, on parle d'utilité. Lorsqu'on est dans une archivistique plus traditionnelle, traditionnel. Quand on est dans une archivistique qui est plus postmoderne, là, on est dans quelque chose qui est plus réflexif. Pourquoi conserver ça? Est-ce que, en quoi est-ce que ça nous aide à fabriquer un passé? On est conscient, justement, de la nature un petit peu plus construite des archives. Mettons que toi, demain, tu fouilles dans les papiers de ton grand-père ou de ta grand-mère, que tu fais un tri dans tout ça, que tu décides d'aller les déposer aux archives parce que, bon, ton grand-père, ta grand-mère a été un homme d'affaires particulièrement vu, un politicien, ou même juste des fois, ça peut être intéressant d'avoir de l'histoire des inconnus. Mm-hmm. La vie d'un homme gay dans les années 1940, ça pouvait ressembler à quoi alors que l'homosexualité était toujours illégale? La vie d'une femme dans les années 1970, qui est féministe, mais pas d'une grande vedette ou de quelqu'un qui est très, très connu, mais juste de quelqu'un qui participe à des manifs comme ça. Puis que ce genre d'idée-là, qui lit des livres dans ce sens-là, à quoi est-ce que ça peut ressembler? Mais bon, quand tu vas faire du ménage dans les lettres pour savoir qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu gardes pas, parce que bon, peut-être la facture de IGA d'il y a deux semaines, ça vaut peut-être pas la peine de la garder, alors que la lettre dans laquelle, la personne expose vraiment sa façon de penser les idées, ça vaut la peine. Mais encore une fois, c'est construit. Et c'est la façon dont toi, tu penses aujourd'hui qui va t'amener à orienter ce que tu gardes et ce que tu gardes pas. Mm-hmm. Puis c'est également la façon dont tu penses aujourd'hui qui va t'amener à organiser le fond.
Ouais.
Parce que tu vas dire, je vais faire une pochette avec les lettres, une autre pochette avec telle chose, mais pourquoi est-ce que tu décides de classer ça de façon thématique plutôt que chronologique? Mm-hmm. Pourquoi est-ce que tu décides de faire un dossier là-dessus, mais pas là-dessus? Et donc, c'est vraiment un ouvrage qui, j'aurais envie de dire, pose plus des questions qu'il ne donne de réponses, et c'est peut-être ça son intérêt, de nous amener à réfléchir sur qu'est-ce qu'on garde comme document, pourquoi est-ce que on les garde et comment est-ce que l'archive peut devenir art, comment est-ce que l'archive peut nous interpeller, parce que c'est souvent le côté authentique des documents d'archives qui va nous amener à avoir une espèce de réaction à ce que l'archive devienne source d'émotion puis qu'elle ait une capacité d'évocation. Mm-hmm. Donc un ouvrage plus théorique mais qui nous permet vraiment de réfléchir sur ce sujet-là particulièrement d'actualité.
Tu as parlé entre autres d'une lettre fictive, là, une lettre inventée qui dirait les états d'âme de la personne qui l'écrit, mais aussi d'une liste d'épiceries. Ça pourrait être aussi intéressant de savoir les prix, ce que les gens achetaient à l'époque. Donc, il y a plein de questions comme ça. Comme tu le dis, ça pose des questions. Les réponses arriveront-elles? On le sait pas. On le sait jamais. J'ai envie de conclure sur cet ouvrage en te posant des questions vers l'avenir des archives parce que, comme je l'ai dit en début de chronique, cette activité-là d'archiver, c'est beaucoup avec le papier, c'est beaucoup avec les documents, comme tu l'as dit, authentiques. Mais pour tout ce qui est des fichiers, des documents sur l'ordinateur, comment est-ce que les archives vont être choisies, vont être comptabilisées? Comment ça va fonctionner selon toi?
Ben ça, justement, c'est une question qui est pas nécessairement évidente et qui est particulièrement pertinente parce que, plus ça va, plus on produit de documents. Avant, on n'avait pas une capacité de production et de diffusion des documents aussi grande. Quand tu écrivais une lettre, t'en avais une seule copie. Alors qu'aujourd'hui, t'envoies un courriel puis t'es capable d'envoyer le courriel à 10 000 personnes en même temps, si tu le veux. Via les chaînes ou les logiciels qui vont dans ce sens-là. Fait qu'il y a une multiplication des documents. Et c'est quelque chose sur lequel se penchent de plus en plus les archivistes. On a cette vision-là très romantique de l'archiviste aux Archives nationales en train de regarder une lettre de Papineau ou les documents de la Nouvelle-France, alors que la plupart des archivistes, ils sont où? Ils sont chez l'Industrielle Alliance, ils sont au gouvernement du Québec, au Conseil du Trésor, ils sont chez Desjardins, ils sont dans des entreprises qui, pour être capables de fonctionner, n'ont pas le choix de mettre de l'ordre dans leurs documents, mettre de l'ordre dans les dossiers partagés. Mm-hmm. Et c'est quelque chose qu'on voit notamment dans le certificat en archivistique à l'Université Laval. Anne Klein, auteure de Archives, Mémoire et Arts, élément pour une archivistique critique, et professeure à l'Université Laval d'archivistique. Et donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, c'est une branche d'avenir, l'archivistique, aussi paradoxale que ça puisse paraître a priori, puisque, avec la multiplication des documents, il y a de plus en plus de gens gens qui sont appelés à devoir travailler sur ces questions-là. Et le certificat en archivistique à l'Université Laval permet justement d'aller chercher une expertise là-dedans. C'est souvent quelque chose que les gens vont faire après un bac en histoire, un bac en littérature, un bac en sciences politiques ou une formation préalable en administration pour être capable de se spécialiser dans ces questions-là.
Bien, on est très chanceux d'avoir ça à Québec, à l'Université Laval, des archives aussi étoffées et avec une diversité de documents qu'on peut aller voir en personne et j'invite les gens à aller le faire. On va conclure cette entrevue avec un retour sur les trois ouvrages que tu nous as présentés. On peut... Je te laisse y aller.
Tout à fait. Donc, le premier dont je vous ai parlé, Une société, un récit, discours culturel au Québec 1967-1976 de Micheline Cambron nous propose de plonger dans l'effervescence des années 1960 via le discours qu'on produit à cette époque. Le deuxième dont je vous ai parlé beaucoup trop brièvement de Réal Fortin, Histoire des îles du Richelieu publié chez Gide, nous propose des anecdotes sur l'histoire des îles du Richelieu, des informations sur leur histoire. Par exemple, saviez-vous qu'il y a des îles dans la rivière Richelieu qui ont été protégées par les cow-boys fringants qui ont ramassé de l'argent pour que ça soit versé à la Conservation de la Nature Canada? Oh my God. C'est tout plein de petits, j'aurais envie de dire, fun facts comme ça qu'on découvre dans cet ouvrage. Et le troisième, Archives, mémoire, art, éléments pour une archivistique critique, d'Anne Klein, professeure d'archivistique à l'Université Laval, nous propose une réflexion théorique sur l'archivistique comme discipline. Un ouvrage publié aux presses de l'Université Laval.
C'est ce qui conclut ta chronique. Histoire de lire, on penchait plus vers le patrimoine aujourd'hui et on verra bien ta prochaine chronique.
Halloween.
Halloween, évidemment.
On parlait de poison, de crimes crapuleux et de contes mettant de l'avant le diable.
Ça va être spécial, mais est-ce que je t'avais dit que la semaine prochaine, il n'y a pas d'émission?
Ah non, fait que ben on va en parler après.
On va en parler après. On va se voir en novembre. On se dit au mois prochain.
Pour la fête des morts.
Oh, ça va être toute qu'une fête. Merci, puis on se dit, comme je viens de le dire, au mois prochain.
Au mois prochain.
Salut. On va pouvoir conclure en ce vendredi 22 octobre l'émission de Chérie, j'arrive. Et de quoi est-ce que je vous ai parlé aujourd'hui? J'ai commencé avec Amélie Nadeau, qui est venue faire la chronique à l'Est de vos empires. Elle m'a parlé du MOBA qui était à Québec cet été. Elle m'a parlé de la beauté dans l'art. Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est laid? Et cette façon aussi de contempler l'art de façon subjective. J'ai eu une entrevue assez absurde avec Zouz. Et je vous invite à aller voir leur spectacle ce soir au Pantoum. Ils lancent leur album Vertige, qui ont aussi lancé hier. C'est une double programmation pour ce trio de Montréal. J'ai parlé aussi avec Jacob Lafrance pour Projet Jacob, son projet de musique qui vient de paraître, un EP qui s'appelle Sans Brume. J'ai parlé musique avec la chronique Passeport culturel de Camille Bernacchi. On a parlé d'une artiste brésilienne. On va se revoir dans deux semaines pour sa chronique Passeport culturel. Et j'ai terminé la dernière demi-heure avec Alex Tremblay-Lamarche. On a parlé de patrimoine avec trois ouvrages qu'il m'a présentés comme à l'habitude pour sa chronique Histoire de lire. Je l'ai dit beaucoup cette semaine, je l'ai dit beaucoup dans cette émission. On se voit pas la semaine prochaine, on n'a pas d'émission. On va se retrouver pour le début du mois de novembre. C'est un rendez-vous à partir du 1er. J'essaie de vous arranger quelque chose de beau. Il y a Safia Nolin qui a un projet qui s'en vient, peut-être une entrevue. On s'y est au courant et on se dit au lundi 1er novembre. Moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine prochaine, bonne semaine de lecture à tous les étudiantes et tous les étudiants. Et on se dit à lundi 1er novembre. Mon nom est Félix Duchesne et je vous dis à la prochaine. Bye bye.
Proche, vivez avec une perte de vision, peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute locale. Écoute Chiz 94.3.
Capacé, capté par son receveur. Touché, Rouge et Or.
Ce dimanche, 14h, le Rouge et Or affronte les Carabins de Montréal pour l'obtention du premier rang du RSEQ. Les hommes de Glenn Constantin tenteront de venger leur défaite du 18 septembre dernier. Ne manquez pas l'avant-match dès 13h30 en compagnie de Pascal Loubier et Sébastien Barbeau. Laval contre Montréal, c'est ce dimanche 14h, seulement sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Si tu te demandes c'est quoi le prog, t'aimerais en savoir plus? À l'émission L'ère du progrès, on revisite la naissance et l'évolution de la musique progressive sous toutes ses formes, puis on analyse son contenu pour mieux la comprendre. Le prog aura jamais été aussi accessible. Si ça t'intéresse, c'est les lundis soirs de 22h à 23h à Chiz